RMB, question d'actualité.
RMB matin, 7h16, on retrouve Cédric et son invité.
Comment agir et tenter de défendre son territoire dans une situation politique nationale floue et instable? C'est un peu le défi des élus parlementaires et sénatoriaux en ce moment. Et on en parle avec le sénateur de l'Allier, Bruno Rojouan. Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs d'RMB.
Et bonne année, meilleurs vœux.
Mais oui, on peut encore le faire jusqu'à la fin du mois, paraît-il.
Ouais, retour d'abord sur 2024 et tous ces rebondissements, là vous êtes au cœur de tout ça, un peu, enfin, à côté, on va dire. Le Sénat n'a pas bougé, mais ça a bien bougé à côté. Comment vous avez vécu ça et comment ça se passe, en fait, pour continuer à exister dans cette situation.
Le Sénat est quand même une institution un peu privilégiée et protégée, puisque, effectivement, le Sénat est une structure qui est quand même moins politisée que l'Assemblée nationale. Donc, le Sénat a aussi cette espèce de longévité qui lui permet que le président de la République ne peut pas le dissoudre. Donc, le Sénat est la représentation des territoires. C'est là la grande différence. Et nous sommes élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Dans le département de l'Allier, la majorité des grands électeurs, ce sont les maires. Donc, il y a une espèce de filtre. C'est un peu comme une élection professionnelle. C'est un peu comme une représentation de chambre professionnelle.
Ça parle moins aux citoyens.
Bien sûr que ça parle moins aux citoyens, mais ça parle beaucoup aux maires et aux élus locaux, puisque nous les représentons. Et donc, l'instabilité aujourd'hui, eh bien, qui est nationale et qui touche toute la nation, par répercussion, elle a obligatoirement un côté négatif qui concerne directement les collectivités territoriales, régionales, départementales et communales.
On parle beaucoup des budgets, justement. Là, il n'y a pas de budget au niveau national. Donc forcément, pour faire son budget au niveau local, c'est compliqué. Comment expliquer tout ça, justement, à vos collègues locaux, là, ceux qui vous ont élus, comment leur apporter solutions, des idées?
On leur explique, d'abord ils le savent, ils connaissent un petit peu la mécanique aussi, les maires ne sont pas dans l'ignorance de ce qui se passe au niveau national. On a quand même voté une loi spéciale qui permet effectivement de régler un certain nombre de problèmes, mais on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui aller sur les solutions sur, par exemple, les problèmes de l'agriculture, par exemple. On est bloqué pour ça. Indirectement, on peut dire aussi qu'un certain nombre de subventions aux communes, sans budget, ne peuvent pas être débloqués. Donc, il y a quand même urgence, absolument urgence, à voter un budget. Voilà pourquoi je suis contre toute forme de censure, parce qu'il faut absolument que nous avancions dans cette étape de voter un budget pour la nation.
Bon, et là, on est dans quelle situation exactement? Il y a eu ce discours de politique générale. Ça a l'air d'être lancé, à peu près.
Il n'y aura pas, je prends le pari qu'il n'y aura pas censure cet après-midi.
Ouais.
Donc, le gouvernement va avoir un peu de temps devant lui, ce qui va quand même permettre de valider un certain nombre de choses et d'aller vers le budget. Mais le grand danger de faire sauter à nouveau le gouvernement, ça va être les discussions, justement, qui vont concerner les discussions budgétaires et la répartition du budget. Donc, aujourd'hui, à mon avis, pas de censure, mais pour avancer dans le budget, il y a un risque de voir une censure politique provenant, j'allais dire, des deux extrêmes bloquer à nouveau la situation, et ce serait assez dramatique.
Et vous pensez qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles élections avant la fin du mandat, comme ça a l'air de se dire un petit peu partout?
Je le pense, oui.
Ouais.
Je le pense, puisque la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être effective à nouveau à partir du 9 juillet, si je me souviens bien. Donc, je ne vois pas des élections en juillet. Donc, on peut imaginer une dissolution plutôt à la rentrée vers septembre. Mais ce n'est pas du tout mon choix. Parce qu'on parle beaucoup, on critique beaucoup cette Assemblée nationale. On a raison de la critiquer. C'est le jeu de la démocratie. Mais cette Assemblée nationale est représentative de la situation de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une France avec une population qui s'est radicalisée sur des positions souvent très dures. Et ce que l'on voit en représentation nationale, ce spectacle assez lamentable que nous voyons, il représente une partie de la population française.
Mais c'est peut-être aussi parce que justement, ce qui est proposé ne satisfait pas.
Mais bien sûr,
et
j'allais dire,
donc il y a bien des choses à changer.
Oui, c'est le résultat de plusieurs décennies derrière nous de politique nationale. Donc, je dis aujourd'hui aux Français d'une manière générale et à la population de l'Allier, je le dis, Votre seule base aujourd'hui sérieuse, c'est l'échelon local. Les maires, aujourd'hui, en France, tiennent la République. Pourquoi ? Parce que la mairie, la proximité, la notion de la vie associative tient aujourd'hui notre pays et lui évite de basculer dans une forme un peu d'anarchie qui serait absolument terrible. Bon, maintenant, c'est bien, ça fait le tampon, mais il faut quand même qu'on redresse la situation au niveau national rapidement.
Bon, parlons de l'Allier, justement, de l'action de terrain, comment ça se passe exactement. Comment il y a une réserve aussi de finances pour les sénateurs. Comment vous utilisez
non,
ça?
Non, ça n'existe plus. Oui, oui, ça ouais, existait
j'avais
avant.
J'avais un doute.
Oui, une réserve qu'on appelait la réserve parlementaire n'existe plus. Ça a été jeté dans ce qu'on appelle le fonds, je vais simplifier les choses, dans un fonds associatif qui est redistribué après au monde associatif du département. D'ailleurs, les parlementaires, d'accord, en tant que sénateur, je participe à cette répartition ouais, qui est une proposition préfectorale. Donc ça n'existe plus. En fait, les parlementaires n'ont plus de budget à leur disposition. Par contre, ils ont le budget de l'État, bien sûr. Voilà. C'est nous qui décidons de cette répartition. Et dans un département comme l'Allier, qui est un département, on va dire un petit département par rapport à la moyenne des départements en France, ce qu'il faut veiller, et ce que je veille particulièrement, et au Sénat, c'est son rôle principal, c'est que les collectivités, les petites collectivités, ne soient pas oubliées chaque année dans la construction du budget de la nation.
Et comment ça se représente, ça, justement? Qu'est-ce qu'on demande en tant que sénateur de l'Allier?
Eh bien, on dit dans l'Allier, par exemple, j'ai par exemple un certain nombre de collectivités qui ont des projets, qu'on appelle ça la DETR, c'est-à-dire, c'est les financements que la préfecture de l'Allier va pouvoir distribuer aux différentes collectivités. Elle est décideur, la préfecture, comme dans tous les départements, de l'endroit, de la destination à telle ou telle commune, mais elle ne décide pas de l'enveloppe globale qui lui est attribuée. Ça, c'est effectivement le rôle des parlementaires. Et donc, il y a deux étapes. C'est pour ça que sans budget de la nation, hein, c'est un peu la situation aujourd'hui, sans budget de la nation vraiment réalisé, on pourrait dire que exactement, la situation reste un peu comme elle était en 2024, alors qu'il faut l'adapter à 2025.
Bon, vous avez aussi pas mal travaillé sur la santé.
C'est mon fil conducteur, absolument, ouais. Oui.
Parce que c'est quand même, on va dire, la problématique principale sur un département comme l'Allier, même il y en a d'autres, mais c'est vrai que...
Il y en a d'autres.
Voilà, les Bourbonnais sont en mal d'accès aux soins.
Alors, on va essayer de remonter le moral quand même un peu des gens. La situation dans l'Allier est assez particulière parce qu'il y a eu une politique départementale puissante avec le système Wanted qui a fait que dans ce département, on a évité le choc dramatique de la perte complète d'installation de médecins. Mais le niveau national n'a pas joué son rôle.
Peut-être à d'autres endroits du département.
Alors,
tous les
territoires ruraux sont dans cette situation. Là, il y a deux cibles, si vous voulez. Je ne veux pas utiliser cette expression déserts médicaux parce que quand je discute avec les jeunes étudiants ou les internes, ils me disent toujours, quand vous me parlez de déserts médicaux, je ne retiens que désert tout court, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Bon, les territoires sous-denses, il y en a dans les territoires ruraux et dans les quartiers politiques de la ville. Donc, ce sont les deux endroits où il y a la situation est la plus terrible. Eh bien, le pire est devant nous, hein, parce que le nombre de médecins, on a fait sauter le numerus clausus, ça c'est quelque chose qui est effectif, mais on a des médecins vieillissants, donc on va avoir jusqu'en 2028 encore, pour les médecins généralistes et les spécialistes, une baisse. Mais à partir de 2028, ça va réaugmenter. Donc, il faut s'y préparer dès maintenant, parce que les études de médecine, c'est très long, il faut aussi changer le système de recrutement, mais il y a quelque chose, et ça je pense que ça devrait sortir cette année. Deux professions sont très bien représentées sur nos territoires, et notamment dans l'Allier et dans la région montluçonnaise, ce sont les infirmiers et les pharmaciens. Il faut confier des tâches supplémentaires de soins à ces deux professions-là, parce qu'ils en ont les compétences, ils en ont la possibilité, ils souhaitent le faire.
Et donc, téléconsultation, par exemple?
Non, la téléconsultation, la téléconsultation, il faut un médecin, parce qu'il faut quand même, au bout du compte, un médecin. Mais on peut imaginer... ce que j'appelle les petits maux du quotidien. Il y a tout un tas de choses où, en fait, il n'y aurait pas nécessité pour le patient d'aller voir son médecin en priorité. Il pourrait se rendre à la pharmacie et puis auprès de son infirmier.
Et donc pas ce aller créneau-là, aux urgences, par exemple.
Ce créneau-là, il faut le travailler. Alors bah les urgences, oui. Alors les urgences, pourquoi les gens vont aux urgences? On sait très bien, c'est parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Vous avez dans l'Allier à peu près 11% de la population qui n'a plus de médecin traitant. C'est le même pourcentage au niveau national et ce pourcentage, j'allais dire malheureusement, augmente. Alors, il y a les fameux CPTS, enfin bon, pour les auditeurs, ça ne va rien leur dire, mais ces espèces de regroupements.
On les a reçus il y a
vous
pas longtemps.
Vous les avez reçus donc, bon, ils essaient aussi de trouver des solutions, d'avancer pour que, par exemple, les gens qui ont des maladies chroniques soient encore suivis, ne soient pas complètement décrochés de la santé. Mais enfin, c'est quand même tout ça, c'est quand même assez triste d'en être arrivé là, alors qu'on aurait pu prévoir tout ça. L'échelon national savait quel était à peu près l'âge des médecins, où est-ce qu'ils étaient sur le territoire, quand allaient-ils partir en retraite, et tout le travail qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Donc maintenant, on court pour essayer de rattraper quelque chose qui date depuis 30 ans, et on ne va pas le rattraper en 5 ans. Ça se rattrapera sur peut-être une dizaine d'années. Donc il faut essayer, j'allais dire, de changer un petit peu les habitudes des patients. Puis alors, le recrutement. Moi, je dans le travail que je fais avec mon groupe de sénateurs sur ce sujet-là, puisque j'en suis le rapporteur, on veut changer le recrutement. Parce que quand on regarde d'où viennent les jeunes qui se destinent à la médecine, ils viennent tous en général de grandes métropoles ou principalement de grandes villes. Mais ils s'installeront jamais dans un territoire rural ou ils s'installeront jamais dans un quartier politique de la ville. Donc, il faut donner des quotas. Il faut de recrutement pour que ces jeunes, en recrutant dans ces secteurs-là, on a plus de chances de les voir s'installer dans les territoires en manque de médecins.
Bon, ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir été avec nous et bon courage pour le travail qui reste à faire.
Merci à vous.